Bien, j'en vois certains qui arrivent, mais je vous propose de démarrer par l'appel que va faire Lionel Giry.
Pierre Mallet, présent. Marie-Christine Lamotte, Jean-Max Croze, Jean-Yves Parronneau, Christian Sonnet, Dominique Clavé,
il arrive.
Jeannette Deletraye.
Elle doit arriver dans la même voiture.
Louis Pascal.
Il est aussi dans le même.
Bah, il doit être dans la même voiture aussi.
Frédéric Carrère, Joël Mallet, Jean-Marie Esquier, absent, représenté par Blanche Kéan-Dufaux, Guy Sibu, Jean-Paul Alire, absent, représenté par Maëlys Etcheverry, Gérard Apestegui, Robert Duezo-Méral. Catherine Demême, Geneviève Dariussec,
présente.
Hervé Bayard, présent. Muriel Croze.
Je ne sais pas, elle arrive. Elle m'a dit qu'elle venait.
Bertrand Tortigue, absent, pouvoir à Chantal Davidson.
Qui est là.
Marie-Christine Bourdieu, Charles Daillot, Chantal Davidson, Farid Eba, Eliane D'Arteron, Antoine Vigneault-Tuquet, Catherine Piquet, Jean-Paul Gantier.
Il arrive, je pense.
Catherine Dupouille-Ventrepol, Gilles Chauvin, Chantal Couturier, Bruno Ruffia, Chantal Planchenot, Nicolas Tachon, Stéphanie Chédad, Thierry Socodiabert, Pascal Horry, Jean-Marie Badby, Marina Bancon, Renaud Laïtette, Elisabeth Soulignac-Gerbeau, Didier Simon, Karen Juan, pouvoir à Madame Elisabeth Soulignac-Gerbeau. D'accord. Julien Tunès.
Voilà.
Véronique Glaise. Sylvie Ingan. Michel Garcia. Jean-Paul Le Tyran, absent, pouvoir à Geneviève Dariussec. Florence Thomas, absente, pouvoir à Pierre Mallet. Xavier Dumoulin.
Présent.
Jean-Louis Dariotor. Régine Nellig, Patrick Dangoumeau, Joël Bonnet,
présent.
Delphine Salambier, Bernard Kruzinski, Marie-Denis, Olivier Boisset,
présent.
Laetitia Tachon, Éric Mezrich,
présent.
Marilyn Rousseau et Denis Capdeviol, absent, représenté par Brigitte Lartigot.
Et voilà. Les Bretons qui arrivent. Très bien. Bonsoir. Bien, le quorum est largement atteint. Je vous propose de voter d'abord le procès-verbal de notre séance du Conseil du 19 juin 2014. Y a-t-il des interventions qui auraient été mal retranscrites? Il n'y en a pas. Très bien. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? Ce procès-verbal est entériné. Je vous remercie. Et nous avons un compte-rendu de décisions qui ont été prises depuis le 4 juin 2014 jusqu'au 11 septembre 2014. Je ne vais pas vous faire la lecture de ces 4 ou 5 pages d'ailleurs. Je vais simplement vous demander si vous avez des questions, des éclaircissements sur ces décisions. Il n'y a rien d'exceptionnel. Très bien. Je vous remercie. Bon, nous allons démarrer notre conseil communautaire. Oh, je voudrais d'abord, bon, je ne vais pas me mettre dans enfin, faire des déclarations qui soient tonitruantes sur ce sujet, mais bon, il y a une information cet après-midi là, qui est tombée du décès d'un otage décapité. En général, je ne parle jamais de sujets qui ne concernent pas l'agglomération. Mais bon, là, je dois dire que je pense qu'on peut avoir collectivement une pensée pour cet homme. Et je crois tout simplement qu'il va falloir qu'on soit collectivement très fort à l'avenir devant ces situations qui, celle-là est douloureuse, et d'autres pourraient se succéder. Donc je souhaite vraiment qu'on soit très, très soudés devant tous ces phénomènes. Notre conseil communautaire lui-même, bon, il y a des délibérations importantes pour nous, puisque nous n'avions pas ce type de dispositif en termes de développement économique. Et puis, bon, des délibérations plus classiques, mais aussi une communication du rapport du délégataire de notre service public de transport urbain, qui est aussi important, puisque ça nous donne un petit peu l'état de ce qui s'est passé dans l'année 2013, qui est une année complète de gestion de ce service dans le nouveau réseau. Je vous propose donc de passer à la première délibération, qui est donc l'approbation de la mise en place d'un règlement d'intervention économique que nous avons voulu tout simplement pour pouvoir donner un levier aux entreprises qui souhaiteraient s'installer sur notre territoire. Et je vais laisser immédiatement la parole à Pierre Mallet.
Merci, Madame la Présidente. Les communautés d'agglomération peuvent accorder des aides pour favoriser le développement économique sur le territoire de leurs communes membres. Bien sûr, cette aide est coordonnée par la région qui reste le coordinateur de ces actions de développement économique. Nous avons voté par délibération au mois de juin une compétence supplémentaire, l'action de développement économique au niveau de notre agglomération. Et donc ce soir, cette délibération vous propose de mettre en place ces diverses interventions. Ces interventions permettront de renforcer l'attractivité et la compétitivité des entreprises sur notre territoire, de conforter le tissu existant, soutenir la création, le développement et la reprise d'entreprises. Je vous rappelle, avant que nous regardions ensemble ces aides, qu'il y a déjà des aides qui sont actées au niveau de notre agglomération, notamment diverses exonérations fiscales, puisque nos 18 communes qui représentent l'agglomération sont toutes en zone de revitalisation rurale. Alors, je ne vais pas vous lister l'intégralité des exonérations dont peuvent profiter les entreprises. Je voulais juste, à titre de renseignement, vous dire que pour l'année 2013, ces exonérations ont concerné 220 entreprises et qu'en produit fiscal en moins pour notre agglomération, cela représente 95 918 euros, ce qui peut être considéré aussi comme une aide indirecte au niveau de ces entreprises-là. Donc, deux grands piliers au niveau de ces aides. Des aides à l'immobilier d'entreprise, dites aides à l'achat et à la location de terrain, qui ne sont pas conditionnées à un conventionnement avec la région, et des aides à l'investissement et au développement des entreprises qui, elles, feront l'objet d'un conventionnement avec la région. Donc pour tous ces dossiers d'aide, une seule procédure, mais avant de vous expliquer cela, j'ai souhaité que soit joint à ce dossier la définition européenne des entreprises, puisque c'est vrai qu'en commission de développement économique, on a voulu que chacun sache exactement à quoi correspond une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise, puisque c'est des critères qui sont quand même très, très définis et on n'est pas censé forcément les posséder tous. Chacun les a, je pense, dans le document qui est joint, comme ça vous saurez à quel type d'entreprise s'adressent les aides en question. Donc la procédure est toujours la même, le dépôt d'un dossier se fera au niveau des services de l'agglomération. Il sera instruit par le service de développement économique. À la suite de ce dépôt, l'entreprise aura un accusé de réception qui vaudra, si besoin, autorisation de démarrage des travaux. C'est un peu le même principe que pour les collectivités. Ces dossiers, une fois instruits, s'ils sont recevables, passeront en commission de développement économique, puis ensuite en bureau, et seront bien sûr validés, comme c'est la loi, par le conseil communautaire, avant qu'une convention ne soit signée entre notre collectivité et l'entreprise en question. Bien sûr, dans cette convention, il y aura des précisions, notamment une période d'activité qui sera minimale pour que ces aides aient une vraie valeur et que ce ne soit pas juste un camouflet. Donc je vais peut-être parler des aides l'une après l'autre pour essayer de les détailler un petit peu. D'abord, l'aide à l'acquisition. Alors l'aide à l'acquisition et l'aide à la location sont des aides spécifiques qui n'ont pas besoin de conventionnement avec les aides avec la région. Ces aides, bien sûr, sont pour des entreprises qui s'installeraient sur le périmètre des zones d'activité communautaire. Alors nous avons souhaité, bien sûr sous le conseil de Madame la Présidente, intégrer dans les conditions d'attribution des engagements de l'entreprise dans une démarche sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous avons lié, en plus des conditions qui sont les conditions habituelles de ce genre d'accompagnement financier, souhaiter que les entreprises fassent de la formation, qu'il y ait aussi de l'apprentissage, qu'il y ait de l'alternance pour que vraiment ce levier soit un levier de développement, mais aussi un levier de formation. Vous savez que nous avons fait de la formation, nous faisons de la formation. C'est une politique volontariste de notre agglomération et ces conditions, ces critères sont pratiquement à chaque type d'aide. Alors, après le taux d'intervention, pour ce qui est de l'acquisition, il est différencié en fonction de la taille de l'entreprise. Bien sûr, il y a toujours la règle des minimis, tout le monde le connaît, c'est plafonné à 200 000 euros. Donc, pour les petites entreprises, l'aide pourrait atteindre 25% de la valeur vénale et monter à 30% en fonction, justement, de ce que je vous disais, c'est-à-dire de l'engagement de ces entreprises dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Pour les entreprises moyennes, même principe, de 15%, elle pourrait passer à 20%. Pour les grandes entreprises, l'aide pourrait atteindre 10% de la valeur vénale. Voilà pour l'acquisition. Pour ce qui est de la location, alors on n'est pas encore tellement concerné au niveau de notre territoire, mais c'est quelque chose qu'il valait mieux évoquer et anticiper. Donc la location servira surtout à soutenir l'implantation, le maintien d'activités économiques sur notre territoire. Les principes, les conditions d'attribution seront quasi équivalentes. Le taux d'intervention pour les petites entreprises, 30% du montant du loyer sur 3 ans, 20% du montant du loyer sur 3 ans pour les entreprises moyennes et 10% pour les grandes entreprises. Je vous laisse, je pense que tout le monde a pris connaissance dans le dossier des conditions d'attribution et des bénéficiaires pour les aides à la location. En ce qui concerne les aides à l'investissement et au développement, ces aides-là, elles, feront l'objet obligatoirement d'une convention avec la région. Pour mémoire, je vous rappelle que sur la typologie d'entreprises sur le territoire du Marsan, 97% des entreprises ont moins de 50 salariés sur notre territoire. Donc cette aide-là est plus spécifiquement dirigée pour favoriser l'implantation d'activités nouvelles et soutenir des projets d'investissement immobilier par les entreprises. Alors elle est dirigée vers des investissements immobiliers, des frais d'aménagement, de viabilisation de terrain, construction ou extension, réhabilitation d'infrastructures associées, frais de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Bien sûr, la condition d'attribution d'une entreprise dans une démarche d'économie sociale et solidaire, comme vous pouvez le constater, est toujours présente, ainsi que le processus privilégiant la formation par l'apprentissage ou l'alternance. La règle des minimis sera appliquée, bien sûr, dans ce cadre-là aussi. Ici, l'aide pourra prendre la forme d'une subvention plafonnée à 10% du montant hors taxe des dépenses éligibles et à 20 000 euros par dossier. Elle pourra être majorée à 25 000 euros en fonction de l'engagement dans la démarche sociale et solidaire ou dans un processus intégrant des apprentis ou de la formation par alternance. Je vous redis pas la procédure puisque c'est la même procédure quelle que soit l'aide qui sera sollicitée au niveau de l'agglomération. En ce qui concerne l'aide à la transmission et à la reprise, c'est une aide spécifique puisqu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs sur notre territoire qui ont 55 ans et plus. Il vous est rappelé que 155 entreprises du Marsan ont des dirigeants qui ont 55 ans et plus. Ça représente, il faut le savoir, plus de 400 emplois. Donc nous devons aussi essayer d'accompagner, je dirais, la continuité de ces petites entreprises, puisque bien souvent, c'est celle qui crée de l'emploi et c'est de l'emploi pérenne. Donc, on a intérêt à les accompagner et à les aider. Donc, l'objet, c'est donc de favoriser le renouvellement. C'est, dans la perspective d'une cession, inciter le chef d'entreprise à réaliser des investissements nécessaires à transmettre un outil productif, accompagner éventuellement le repreneur s'il doit lui-même réaliser ses investissements dans les 18 mois qui suivent la reprise. Alors sur cette fiche, il y a un petit manque. Dans les bénéficiaires, vous avez pour les investissements réalisés par le repreneur, les entreprises de tous secteurs ayant été reprises au cours des 18 derniers mois. Hein, c'est pas 18 derniers, voilà, il manque le mot mois, je crois. Hein. Bien, les conditions d'attribution, vous les avez, et le taux d'intervention, il est plafonné aussi à 10% hors taxe des dépenses éligibles et à 25 000 euros par dossier. Bien sûr, toujours la règle des minimis concernant ces aides, et ceci dit, en prenant aussi en compte les aides qui pourraient être sollicitées, soit par l'Union européenne, la région, etc. Forcément, tout sera englobé. Et ensuite, une aide à l'innovation, alors ça c'est une aide un peu spécifique, qui serait développée dans le même principe que le dispositif Aquitaine Proto, qui est mis en place par la région. C'est un dispositif pour les TIC, qui ont souvent besoin d'être très réactifs, pour pouvoir éventuellement avoir des ressources ponctuelles, c'est-à-dire faire appel à des ingénieurs, à des chercheurs, pour peut-être réaliser des maquettes, des prototypes, avant de pouvoir se lancer un peu plus avant et développer leur entreprise. Donc c'est des aides ponctuelles qui sont quand même très très ciblées. Elles sont aussi ciblées dans le caractère innovant du programme qui sollicitera cette aide. Hein, c'est un dispositif d'aide à l'innovation qui est vraiment très ciblé. Donc le taux d'intervention, il sera de 50% du besoin de financement et il est plafonné à 10 000 euros par dossier. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire sur le règlement d'intervention tel qu'il vous est présenté ce soir.
Bien, y a-t-il des questions ? Didier Simon.
Plutôt une remarque sur les aides. Bon, dans l'esprit, bien sûr, qu'il faut aider les entreprises, mais il y a sur les aides à la location et à l'investissement, donc location et acquisition, les bénéficiaires peuvent être des très grandes entreprises qui ont plus de 5000 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros. Moi, je pense que ces entreprises n'ont pas forcément besoin de ces 10%, enfin de ce taux d'intervention. Et je pense qu'il faudrait peut-être renforcer le taux d'intervention sur les TPE, les entreprises inférieures, et peut-être enlever les grandes entreprises de cette condition d'attribution. Parce que je pense que ce ne sera pas déterminant pour eux. Et je pense qu'il vaut mieux renforcer l'aide aux petites entreprises. Voilà ce que je voulais suggérer.
Oui, Pierre Mallet.
Oui, c'est une bonne remarque. Alors, ceci dit, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, ces aides dépendront aussi des capacités financières du Marsa Agglomération. Et ensuite, comme je l'ai précisé tout à l'heure, une fois que les dossiers seront jugés recevables, ils seront étudiés par la Commission de développement économique et rien n'empêche de favoriser plus des petites et moyennes entreprises que des grandes entreprises sur le taux. Les taux que je vous ai donnés sont des taux maximum et donc on peut très bien diriger. Ce sera aussi le travail de la Commission de développement économique de diriger ces financements plutôt vers les petites et moyennes entreprises, plutôt que vers les grandes, qui ont peut-être d'autres leviers pour accompagner leurs investissements. Hein ? Oui, on est d'accord là-dessus.
Bon, deuxième remarque, il y a quand même... Tous ces taux sont plafonnés par l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller, par des règlements européens, on ne peut pas aller au-delà, hein, pour les petites et les moyennes, enfin, je veux dire... oui. Donc, bon, c'est voilà. C'est voilà... Et c'est 200 000 euros de toute façon. Bon, l'idée est tout simplement de dire qu'on peut avoir du foncier et pour favoriser la venue d'une entreprise, on a un foncier qui a un prix, hein, on peut éventuellement, par ce règlement, eh bien donner une aide pour diminuer ce coût du foncier. Mais c'est vrai qu'il y a des règles, minimales. Alors maintenant... j'avoue que s'il y avait une grande entreprise qui arrivait pour créer 500 emplois ou 700 emplois, bon voilà, ce serait bien sur l'agglomération.
On se posera la question
à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est surtout un règlement qui a été fait pour les petites et moyennes entreprises moyennes.
C'est quand même très ciblé.
Alors, sachant... Oui, Didier Simon, pardon.
L'esprit dans lequel ça doit être, parce qu'une entreprise qui a plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, je veux dire, c'est pas ça qui va faire basculer. C'est peut-être un cadeau de bienvenue, mais bon, ce sera pas plus, quoi.
Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a des stratégies territoriales de concurrence territoriale qui sont pas toujours simples à gérer. Et deuxièmement, bon, faire remarquer quand même que la région Aquitaine donne beaucoup, beaucoup d'aide à des entreprises qui sont de cette taille, pour faciliter leur intervention. Donc on n'est pas non plus hors règlement général. Mais c'est vrai qu'ici, localement, c'est fait pour les petites et les moyennes entreprises. On sait bien que c'est notre cible. Deuxième chose, Pierre en a très bien parlé. Vous pouvez noter qu'on a mis une conditionnalité des aides, une conditionnalité sur l'économie sociale et solidaire, c'est en fait sur l'insertion, puisqu'on nous voudrions pousser ces entreprises, quand elles font un investissement, quand c'est possible, hein, quand c'est du bâtiment, des choses comme ça, à avoir recours, enfin les entreprises qui font réaliser ces bâtiments aient recours à de l'insertion par l'économie, comme nous, nos clauses d'insertion que l'on a au niveau de notre collectivité, pour véritablement pouvoir amplifier encore ce dispositif qui, à l'heure actuelle, est surtout porté par nos collectivités ici sur le Marsan, hein, que ce soit la ville de Mont-de-Marsan ou que ce soit l'agglomération. Enfin, on a quand même fait travailler pratiquement 50 personnes en 2013 sur des chantiers, des gens sans formation qui sortent avec une formation et quelquefois avec des CDI. Je crois que vraiment, on a un effet levier très important dans ce domaine. Et deuxième chose, une conditionnalité sur la formation, sur l'apprentissage et l'alternance, ce qui me paraît assez essentiel, de pouvoir donner un bonus aux entreprises qui s'engagent là-dedans, parce que c'est vraiment, ce sont des domaines où il y a beaucoup de manque pour les jeunes, hein, qui ont besoin de ces stages de formation, en apprentissage ou en alternance. Et il me semble que toutes les collectivités devraient aller dans ce sens pour essayer d'avoir un effet levier et de favoriser un petit peu ces processus de formation qui sont essentiels pour notre jeunesse. Voilà. J'avoue que moi, je bataille depuis très longtemps à la région. Je ne suis pas arrivé encore, on n'est pas arrivé encore à mettre cette notion dans les aides que l'on peut donner aux entreprises. Je crois que c'est de notre devoir. Et ici, en plus, nous avons un terrain économique avec des petites entreprises artisanales ou moins de 20 salariés, on va dire, et qui sont souvent dans des secteurs où l'apprentissage est important en termes de formation. Donc l'idée était vraiment de pouvoir être incitatif pour avoir ce levier-là, sachant que ce qui est important sur toutes ces aides, c'est que régulièrement, on fasse un vrai état des lieux de ce qui a été fait et que l'on ait des retours de toutes ces aides et de ce qu'elles ont pu apporter sur le territoire, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont importantes, est-ce qu'elles sont des leviers, et elles viennent essentiellement aussi pour toutes celles qui sont dans la partie 2, qui ne concerne pas nos biens, les biens de l'agglomération, elles viennent en supplément des aides régionales pour un effet de levier supplémentaire pour les entreprises. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Micro.
Peuvent se cumuler.
Oui, elles peuvent se cumuler avec un plafond jusqu'à 200 000 euros pour la personne qui reçoit les aides. Et en fonction des pourcentages, mais elles se cumulent. C'est pour ça que nous devons conventionner avec la région. Il y a beaucoup d'intercommunalités qui ont déjà conventionné pour aller sur ce type de... sur ce type de, même des communautés de communes, pour aller sur ce type de levier.
Oui, il est important de préciser aussi que, comme l'a dit Madame la Présidente, beaucoup de jeunes qui sont en alternance ou en apprentissage débouchent souvent sur un emploi consolidé, parce que les petites et moyennes entreprises créent de l'emploi.
D'autres questions ? Donc, y a-t-il des avis contre ? Des abstentions. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et il faudra que nous ayons une évaluation de tout ça dans le temps.
On avait inscrit 100 000 euros dans le budget 2014.
Et nous avions dans le budget 2014, effectivement, comme me le rappelle Pierre Mallet, inscrit 100 000 euros pour une ligne de 100 000 euros pour déjà démarrer le dispositif, mais qui n'a pas été utilisé puisque nous ne l'avions pas voté, et qui sont maintenant disponibles.
Oui. Oui, je tiens à préciser qu'il y a peut-être des dossiers qui vont venir et qui attendaient, je dirais, avec impatience, justement, la mise en place de ces règlements d'intervention. Et je pense qu'on aura peut-être au prochain conseil communautaire l'occasion d'en reparler.
Ah, surprise. Très bien. La délibération suivante concerne le contrat de délégation de services publics de transport urbain, avec la communication du rapport du délégataire pour donc l'année 2013. Alors, vous l'avez tous lu, bien sûr. Ce rapport qui est très complet. Ce rapport d'activité, donc, je vous le rappelle, concerne une année pleine de fonctionnement du nouveau réseau. Bon, je ne vous décrirai pas le réseau, puisque vous le connaissez, ou du moins vous avez lu toutes ces pages. Moi, ce que je retiendrai, c'est que, donc en fin 2013, l'équipe de Transdev du Marsan, puisqu'ils ont changé de nom, ça s'appelait Veolia Transport du Marsan, maintenant se nomme Transdev du Marsan, comporte 31 conducteurs receveurs. Et un conducteur, enfin 32 conducteurs, on va dire, deux agents de vente et d'information, un assistant commercial, un responsable d'exploitation et une directrice. Donc une petite entreprise locale. Il y a donc 4 et 4, 8, 20 véhicules, des grands et des moins grands. Que le déploiement des petits véhicules est privilégié en heure creuse, bien sûr. Que le nombre de voyages total, enfin le nombre de voyages total sur l'année 2013 est de 691 272. Il était sur l'ancien réseau, sur une année complète de l'ancien réseau, à 314 736. Donc ça a été largement multiplié par deux. Que les deux lignes qui sont les plus fréquentées, qui représentent 55% de la fréquentation du réseau, sont les deux lignes principales, la A et la B. Donc ce sont les lignes qui sont en fait les plus efficaces aussi, avec en heure de pointe, des passages tous les quarts d'heure. Enfin bon, vous connaissez ces lignes. Que, quoi vous dire de plus d'important, que les recettes du réseau sont de 197 579, donc presque pas tout à fait 200 000 euros, plus 34 000 euros de recettes publicitaires, ce qui fait à peu près 232 000 euros, que le montant global de la participation de notre agglomération est de 2 608 000 euros, qui se décompose en une contribution financière forfaitaire de 2 382 000 euros et d'un abondement. L'abondement, c'était prévu dans la délégation de services publics, c'est une espèce d'intéressement aux recettes. Et nous sommes à 90%, nous abondons à 90% des prévisions. Les prévisions étaient à 246 000 euros, ils sont un petit peu en dessous. Donc nous abondons à hauteur de 90% de 246 000 euros. Ce mécanisme d'abondement, en fait, ça permet d'intéresser le délégataire à la réussite de son exploitation. Et il avait été prévu pour 3 ans dans ces conditions. Vous dire, donc ça c'est un petit peu pour ce qui ressort de ce rapport. Et vous dire par ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec le rapport lui-même, mais c'est pour votre gouverne, que tout cela, bien sûr, rentre dans le budget annexe transport, que à l'heure actuelle, tout cela est financé par le versement de transport, qui est versé par toutes les entreprises et les collectivités aussi de plus de 9 salariés, je crois. Dans notre agglomération, le versement de transport est à 0,6%. Et que le versement de transport, en fait, avait connu une augmentation importante entre 2001 et 2011, puisque ça a augmenté pratiquement de 5% par an, et que là, actuellement, il n'augmente absolument pas, et on a même pas mal de difficultés à faire rentrer ce versement de transport. Bah, c'est en corrélation avec les difficultés aussi économiques du pays. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu où nous en sommes pour ce service qui fonctionne bien, qui a multiplié par deux la fréquentation et qui ne génère pas de problèmes particuliers, sinon que nous aurons des avenants à passer en novembre, je pense, notamment pour des lignes scolaires. Les choses sont assez, assez compliquées. Des lignes scolaires qui, en fait, ont été maintenues par obligation et qui sont portées essentiellement par le transporteur qui n'avait pas été prévu ainsi dans la délégation de service public. Et puis quelques avenants sur des améliorations de dessertes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Et vous dire si, parce que j'ai un peu de prospective là pour cette année, qu'entre janvier et août 2013, il y avait 267 000 passagers. Pardon ? 367 000 passagers. Et que là, entre janvier et août 2014, nous sommes à 422 000 passagers. Donc voilà, le réseau augmente progressivement, comme il était prévu d'ailleurs, hein, avec un travail, je crois, du délégataire. Qui fait un travail important aussi au niveau des entreprises et des administrations avec des tarifs, des tarifs un peu privilégiés pour les salariés de ces entreprises et de ces administrations. Bon voilà, mais ça c'est leur travail. Hein. On a une progression continue et sur le premier semestre, plus 15% encore par rapport au premier semestre 2013. Voilà, y a-t-il des questions, des interrogations, des commentaires? Ça se vote, ça, ou c'est un... Non, hein, c'est une information. Voilà. Et tout cela a été présenté à la commission consultative des services publics locaux, comme on doit le faire tous les ans. Il y a une information à la commission consultative des services publics locaux et ce rapport a été présenté. Pardon. Oui. Très bien. On va leur demander de continuer leur travail. Nous allons passer à des délibérations financière avec la fixation de base minimum servant à l'établissement de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises à partir de 2015. Hervé Bayard.
Merci Madame. Merci Madame la Présidente. Alors dans cette délibération, il s'agit d'adopter des bases minimales différenciées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Jusqu'à présent, nous appliquions une base unique qui était de 837 euros. Et donc dans cette délibération, hormis la tranche inférieure à 10 000 euros de chiffre d'affaires, et donc dans cette délibération, il vous est proposé donc d'adopter des bases minimales en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Alors, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes inférieures à 10 000 euros, 500. Montant de la base minimum en euros, ça ne bouge pas. Entre 10 001 et 32 600 euros, c'est 837 euros, ça ne bouge pas non plus. Entre 32 601 et 100 000 euros, la base minimum passe à 1 000 euros. entre 100 000 et 250 000 euros de chiffre d'affaires, la base minimale passe à 1 500 euros. Entre 250 000 et 500 000 euros, la base passe à 2 300 euros. Et supérieure à 500 000 euros de chiffre d'affaires, la base est à 3 500 euros. Donc, afin de mieux répartir l'effort contributif et d'assurer la neutralité financière pour le Marsan Agglomération, il vous est proposé donc d'adopter ces bases minimales en sachant qu'elles sont bien inférieures à ceux appliqués dans les EPCI de même nature. Il s'agit de ne pas alourdir trop fortement la fiscalité des entreprises et notamment celles dont le chiffre d'affaires est peu élevé puisque, comme je l'ai précisé, les deux premières tranches ne bougent pas de base. Le conseil communautaire réévaluera progressivement ses bases par période biannuelle sur les 6 ans à venir en fonction de l'impact constaté sur chaque période. Les variations moyennes de cotisation seraient les suivantes. Tranche 1 et 2, 0 euros puisque la base minimale ne bouge pas. Tranche 3, 37 euros. Tranche 4, 150 euros. Tranche 5, 294 euros. Et tranche 6, 456 euros.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. L'institution d'une taxe sur les friches commerciales. Hervé Bayard.
Alors donc, il est proposé au Conseil communautaire de ce soir donc d'instaurer une taxe sur les friches commerciales. L'objectif est simple, c'est d'accélérer la reconversion de ces friches et de faire en sorte que leurs propriétaires, d'inciter les propriétaires à les mettre à disposition de chefs d'entreprise ou d'unités commerciales. Alors, la taxe sur les friches commerciales est un impôt local qui concerne certains biens commerciaux inexploités. Elle est mise en place sur décision de l'établissement public de coopération intercommunale dans le ressort duquel est situé le bien imposable. Il n'y a pas de déclaration annuelle à faire. Le redevable reçoit directement son avis d'imposition si la taxe lui est applicable. Peuvent être imposés à la taxe annuelle sur les friches commerciales les biens concernés par la taxe foncière sur les propriétés bâties, immeubles du bureau ou utilisés pour une activité commerciale, parking des centres commerciaux, lieux de dépôt ou de stockage, et qui ne sont plus affectés à une activité soumise à cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, et sont restés inoccupés pendant cette période. Ne sont pas imposables les logements, les locaux professionnels ordinaires non soumis à activité commerciale et les établissements industriels. La TFC n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. Les personnes qui disposent de plusieurs locaux vacants sont redevables de la taxe pour chacun d'entre eux. La taxe est assise sur le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est soumise à des taux évolutifs. 10% la première année d'imposition, 15% la deuxième année et 20% à partir de la troisième année. L'intérêt, comme je le précisais, de mettre en place la taxe sur les friches commerciales est double. D'une part, cette taxe favorise la réutilisation ou la reconversion des bâtiments professionnels inoccupés. Et d'autre part, elle permet de disposer de ressources utiles pour la reconversion de friches commerciales par la puissance publique si elle s'avérait nécessaire.
Y a-t-il des questions ? Madame Soulignac. Je voulais simplement savoir s'il y avait eu une estimation de ce que ça pourrait procurer par année ou pas.
Alors, pas encore, puisque pour l'instant, on est en train de recenser les friches. Et puis, à partir du moment où on aura déjà une liste, on la transmettra donc au service des impôts. Et à partir de là, on pourra savoir quel est le montant de cette contribution ou de cette taxe.
Et nous vous tiendrons au courant. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Pierre Mallet.
Oui, cela aura un double intérêt puisque le service développement économique aussi disposera d'une liste de friches commerciales et pourra servir de relais avec des entrepreneurs qui veulent s'installer sur notre territoire avant d'aller créer d'autres boîtes à chaussures éventuellement ailleurs.
On n'aime pas les boîtes à chaussures ici. Vous l'avez remarqué, on en parle souvent. C'est pas qu'on les aime pas, mais c'est... voilà. Mais on ne les aime pas vides non plus. Alors, Bien, donc on vous tiendra informé, bien sûr, quand nous aurons ces éléments. Y a-t-il d'autres questions ? Je vais le mettre au vote. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne le partenariat avec la SASP Stade Montois Rugby Pro. Ben, c'est l'époque, la saison a repris. Hervé Bayard ? Ah, je la fais si tu veux.
Alors.
Alors, le sport de haut niveau porte en lui des valeurs éducatives importantes, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert. Il constitue un exemple pour les jeunes sportifs. Cette élite sportive participe à la promotion de l'agglomération en tant en France qu'à l'étranger. Les actions de formation et de perfectionnement de jeunes sportifs, mises en œuvre par les clubs évoluant en élite, contribuent également à élever le niveau de pratique de l'ensemble des clubs. Enfin, le sport de haut niveau est un facteur de développement dont l'impact social dépasse largement le cadre sportif. Ainsi, un club professionnel renvoie une image de la collectivité à l'extérieur, du fait de la couverture médiatique forte et en constante progression du rugby professionnel. Créer un ciment d'identification locale, essentiel pour la cohésion d'une collectivité. Créer du lien social, la mixité sociale dans les stades, atmosphère conviviale et chaleureuse, est un vecteur d'animation et d'aménagement du territoire, notamment à une heure où les stades deviennent des lieux de vie et de socialisation. Tend à renforcer la pratique sportive de la population. Ces aspects sont des facteurs très importants expliquant l'engagement de la communauté d'agglomération auprès du Stade Montois rugby professionnel. La présence d'un club de rugby professionnel est un atout majeur pour l'agglomération, donnant corps à chacun de ses axes par un effet de notoriété évident. De plus, le Marsan Agglomération, disposant de la compétence de développement économique de son territoire, il est particulièrement intéressant de développer des actions de relations publiques avec le Stade Montois. Ainsi, le Marsan Agglomération pourra travailler son image, sa notoriété et réaliser des opérations de communication et des rencontres thématiques avec les entreprises ou des collectivités et institutions. L'image et la notoriété se valoriseront à travers les opérations communication-visibilité, les opérations de relations publiques au moyen des outils réceptifs du Stade Montois et les droits promotionnels de partenaires majeurs au travers de la communication institutionnelle du Marsan Agglomération. Pour ces motifs, il est proposé au Conseil communautaire de renouveler, au titre de l'exercice budgétaire 2015, un partenariat avec la SASP Stade Montois Rugby. Ce partenariat sera constitué en premier lieu par le versement d'une subvention affectée à des missions d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L113.2 du Code du sport d'un montant de 140 000 euros. Une convention formalisera les obligations du bénéficiaire de la subvention. Par ailleurs, un marché à procédure adaptée, sans publicité et sans mise en concurrence, sera conclu avec la SASP, Stade Montois Rugby, au titre de l'article 28.11 du Code des marchés publics. Il s'agira d'un marché visant à acheter des prestations de relations publiques et de communication. Ce marché d'un montant évalué à 80 000 euros au titre de la saison en cours sera passé par la présidente dans le cadre de sa délégation d'attribution sur les marchés publics. Au terme du partenariat conclu, pour la saison sportive 2013-2014, la SASP Stade Montois Pro établit un rapport d'activité joint en annexe détaillant les actions réalisées au titre d'une part des missions d'intérêt général et d'autre part des prestations de communication et de relations publiques.
Merci Hervé. Des questions, des interventions ? Madame Soulignac.
Toute nouvelle. Puisqu'il s'agit d'un renouvellement, est-ce que c'est un renouvellement du même montant que celui de l'année précédente ? Et d'autre part, ça s'ajoute à l'aide aussi qu'apporte la municipalité de Mont-de-Marsan. Et c'est prévu comme ça, quoi. Alors que, je ne sais pas, par rapport au public, je suppose qu'il y a une partie du public, ça concerne aider la formation des jeunes montois et des issus originaires de l'agglomération. Est-ce qu'il y a un partage ? Enfin, est-ce que vous pouvez...
Alors, la première question, l'an dernier, c'était 230 000 euros, là, c'est 220. Donc, ce n'est pas une augmentation, c'est même un petit peu en diminution. La deuxième, c'est que les missions d'intérêt général, il y a eu pas mal d'actions, vous avez le rapport qui était là.
moins d'actions que les autres années au niveau, alors qui se font dans toute l'agglomération, pas spécifiquement à Mont-de-Marsan, notamment dans les écoles. Moins d'actions au niveau des écoles du Marsan que l'année précédente, tout simplement parce que dans le milieu scolaire, ils ont plutôt privilégié le foot que le rugby cette année-là. Bon, il y a des années foot, des années rugby, il y aura peut-être des années tennis de table, je ne sais pas. C'est aussi dans ce que souhaitent les enseignants. Mais ce qui est certain, c'est que ils vont redévelopper des actions au niveau de toutes les écoles qui le souhaitent. Et par contre, le Stade Montois Rugby est en charge professionnelle, est en charge maintenant du centre de formation, effectivement, qu'ils vont financer de façon beaucoup plus importante, centre de formation sportif, hein, où il y a effectivement des jeunes d'ici, et c'est une mission de formation qui est une mission d'intérêt général, puisque ces jeunes sont formés à faire du sport, mais ils sont formés aussi à faire des études pour sortir avec des diplômes. Hein. Il n'y a pas que la partie purement sportive. Donc voilà un petit peu les réponses que je peux vous faire, et puis je pense qu'ils sont assez imaginatifs pour aussi faire évoluer leur prestation, leur mission d'intérêt général. Mais l'augmentation de la part mission d'intérêt général, elle vient surtout du fait qu'ils ont le centre de formation maintenant en financement important de la part des professionnels. C'est un vrai centre de formation. On ne fait pas que du sport, on fait aussi des études et on essaie d'avoir des diplômes, puisqu'ils sont homologués et labellisés en fonction de tous les résultats, y compris des résultats scolaires de formation. Et l'intervention, après, chaque commune qui voudrait avoir la présence de sportifs pour quelque événement que ce soit, on fait la demande, hein, ça fait partie de leur mission. Ou pour organiser quelque chose, ça fait partie de ce qui est demandé au travers de ce financement. Un gros travail aussi qui a été réalisé sur les discriminations, qui me paraît un travail important par le biais du sport. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est d'avis de voter contre? Monsieur Apestegui. De s'abstenir. Excusez-moi. Madame Etchouiri qui représente Monsieur Alire. Excusez-moi. Hein, vous n'avez pas vos petits noms devant. Et bien en plus, le vôtre, il n'y est peut-être pas. Ce qui n'est pas bien. Vous avez voté contre, vous êtes abstenu, pardon. Donc c'est adopté à la majorité, moins deux voix. Enfin, un vote contre et une abstention. L'attribution de subventions dans le cadre d'un chantier formation sur le territoire de l'agglomération. Alors les chantiers formation, c'est le quatrième que nous mettons en œuvre. Pour toujours lutter contre le chômage et lutter pour tous ces publics en difficulté qui n'ont aucune formation professionnelle, et on a d'excellents résultats sur les sorties de ces chantiers formation. Hervé Bayard.
Alors là, il s'agit donc d'un chantier formation dans le domaine de la cuisine, puisque de nombreuses personnes de notre territoire présentent un savoir-faire en la matière et possèdent des capacités à développer cette activité de manière professionnelle, comme salarié ou en indépendant. Ainsi, le Marsan Agglomération travaille en partenariat avec un organisme de formation, l'INFA, ainsi que les aides du compte, les cuisines centrales de la ville de Mont-de-Marsan et les cuisines de l'hôpital Lainé. Dans une logique de parcours qualifiant, deux groupes de 7 stagiaires seront accompagnés vers l'insertion professionnelle durable, en mettant la personne au centre de la démarche par une implication forte sur la mise en place et la réalisation de manifestations culinaires, et ce, dans un souci constant de valorisation et de promotion sociale. La finalité du projet consiste pour l'ensemble des participants à acquérir des techniques culinaires dans un strict respect des conditions d'hygiène alimentaire et à valider de nouvelles compétences professionnelles afin de se positionner sur l'emploi durable. Alors, la durée de ce chantier, c'est du 13 octobre 2014 au 8 avril 2015. Le parcours moyen d'un stagiaire, c'est 630 heures. Nombre de stagiaires, c'est donc, comme je l'ai précisé, deux groupes de 7. Le plan financement, le coût de l'opération s'élève à 72 018 euros. participe à cette opération l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, à hauteur de 12 000 euros, le Marsan Agglomération 16 000 euros, le Conseil Général 15 000 euros, le Conseil Régional 14 509 euros et le FSE à 14 509 euros.
Bien. Y a-t-il des questions ? On sent des dispositifs qui marchent très très bien et que l'on continuera. Et il y a déjà eu un chantier cuisine qui a très bien fonctionné, surtout dans les sorties et les emplois qu'ont trouvé les personnes qui ont, les stagiaires qui ont réalisé ce chantier formation. Et donc il faut que nous persévérions dans ce sens. Je crois que c'est des politiques qui sont importantes. Des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Nous avons des remises gracieuses. Bon, alors ça, c'est pas très compliqué, Hervé. Ouais. On s'est fait voler et le régisseur n'y est pour rien, donc on va lui faire une remise gracieuse.
Donc, deux vols ont été constatés, donc vol de régie d'avance à l'aire d'accueil des gens du voyage. Un vol par effraction a été commis entre le 1er août et 3 août 2014 à l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Pierre-du-Mont. Suite à ce vol, le trésorier principal a procédé à la vérification de la régie. Il a été constaté un déficit du fonds de caisse de 1310 euros. De ce fait-là, la responsabilité du régisseur est personnellement engagée. Donc, il a été adressé à Mme Quentin Laurie un ordre de versement l'invitant à couvrir ce déficit auprès de la trésorerie de Mont-de-Marsan. À l'issue de cet ordre de versement, Mme Quentin a sollicité le Marsan Agglomération afin d'obtenir un sursis de versement de la présente somme. Le conseil communautaire, en tant qu'organe compétent en matière budgétaire, est ainsi amené à se prononcer sur la demande gracieuse émise par le régisseur de la régie d'avance sur la prise en charge du déficit constaté sur son budget.
Bon, y a-t-il des questions ? Pas d'avis contre ? Pas d'abstention ? Mais oui, ils sont obligés de voter une délibération pour ça. Pas d'abstention, c'est adopté. Et l'autre, c'est pareil.
La délibération 8 donc, concerne également une remise gracieuse. Toujours un délit, une infraction, un vol commis entre le 1er août, c'est toujours le même. Et donc, il est demandé, la responsabilité du régisseur est engagée à hauteur de 150 euros. Et donc, il est demandé au conseil communautaire, en tant qu'organe compétent, est amené à se prononcer sur la demande gracieuse émise par le régisseur et sur la prise en charge du déficit constaté sur son budget.
Pas d'avis contre, pas d'abstention. Je vous remercie pour le régisseur. Marché de travaux d'aménagement du boulevard Nord avec Navenant numéro 2. Au lot terrassement, voirie, ouvrage, assainissement. Hervé Bayer.
La communauté d'agglos donc, est maître d'ouvrage pour le boulevard urbain Nord. Elle avait délégué cette maîtrise d'ouvrage à la ville de Mont-de-Marsan. Le marché de travaux constituant le lot terrassement, voirie, ouvrage, assainissement a été notifié le 11 janvier 2013 au groupement d'entreprises Colas, Baptistin, SNB pour un montant total de 3 675 990 euros. Au cours du chantier, il s'est avéré nécessaire de créer un système de carrefour à feu à l'entrée de la base aérienne. À ce titre, un avenant numéro 1 en plus-value au lot a été notifié. Cet avenant s'élève à 97 104 euros. Mais par la suite, il est apparu que certaines quantités prévues initialement au marché pour la réalisation du boulevard pouvaient être réduites. Par ailleurs, les travaux prévus à l'extrémité ouest du boulevard ne pouvant être entrepris, la procédure d'acquisition foncière de l'emprise nécessaire à ces travaux n'ayant pas abouti à ce jour. Enfin, le montant indiqué dans l'acte d'engagement remis par le candidat comportait une erreur. Il est donc nécessaire de prendre acte de ces ajustements et de conclure avec le groupement Colas Baptistin SNB un avenant numéro 2 entraînant une moins-value totale de 226 094 euros.
On aime bien quand c'est en moins. Y a-t-il des questions ? Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Nous poursuivons avec un groupement de commandes, fourniture de carburant par carte accréditive.
Donc dans la délibération 10, il est en effet créé un groupement de commandes, fourniture de carburant par carte accréditive entre la communauté d'agglomération et le CIS du Marsan. Le marché groupé pluriannuel qui sera prochainement engagé par le Marsan Agglomération, coordonnateur du groupement, suivra les règles de l'appel d'offres ouvert au vu du montant estimé des besoins. L'article 8 du Code des marchés publics dispose que chaque représentant est élu par l'organe délibérant parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque entité appartenant au groupement. Il convient donc que le conseil communautaire procède à l'élection du représentant de la communauté en choisissant parmi les conseillers communautaires titulaires de la commission d'appel d'offres. Un suppléant sera également désigné.
Très bien. Dominique Clavé est volontaire désigné pour être titulaire. Non, parce qu'il faut choisir parmi sinon. Alors, et Hervé Bayard est remplaçant, suppléant. Oui, ça vous va? Enfin, je ne sais pas, les autres. Est-ce que Jean-Yves Parounault, Pierre Mallet, Jean-Louis Dariotor sont d'accord? Et moi, je suis d'accord. Hein. Très bien. Y a-t-il des avis contre, des abstentions? Alors, nous avons créé pas mal de groupements de commandes au fur et à mesure dans nos marchés publics. Là, c'est entre l'agglomération et le CIAS, mais il y a aussi des groupements de commandes entre la ville de Mont-de-Marsan, l'agglomération, le CIAS, le CCAS, et puis aussi d'autres qui se feront avec toutes les communes qui souhaiteront y participer. C'est aussi une façon d'aller dans les marchés publics mutualisés et de faire en sorte d'avoir aussi des volumes plus importants pour pouvoir avoir aussi des prix plus, plus importants. Ça fait partie aussi des processus de mutualisation, enfin des moyens que nous mettrons en œuvre progressivement. Bien, nous devons ensuite adopter un règlement intérieur relatif au fonctionnement du Conseil communautaire. Alors, je ne vais pas vous lire le règlement intérieur. Je suis désolée, qui fait juste 15-16 pages. Je vais simplement vous dire que, il pourrait y avoir un débat après, hein, si vous le souhaitez, mais que c'est quasiment, enfin, c'est un règlement qui existait déjà et qui doit être revoté à chaque début de mandat, en fait, à chaque nouvelle mandature. Donc, il faut que nous votions celui-là. C'est le même que celui qui était que nous avions précédemment. Hein. Ça a peut-être été toiletté d'une ou deux choses qui étaient complètement inutiles, voilà, qui n'avaient pas de sens chez nous. Mais il n'y a eu aucun ajout particulier et il est écrit assez simplement et nous avons le fonctionnement classique de notre collectivité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent insuffisante, mal écrite, pas bien. S'il n'y a pas d'intervention particulière là-dessus, je vous propose de le voter. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Une délibération concernant les délégations d'attribution à la présidente avec une modification. Vous avez voté, nous avons voté le 24 avril une délégation pour plusieurs attributions, dont une concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres et leurs marchés subséquents, qui donnait une délégation d'attribution pour en fait les procédures, marché par procédure adaptée, donc pour les fournitures de services inférieures à 250 000 euros et pour les travaux inférieurs à 5 millions d'euros. En fait, ce qui vous est demandé là, c'est de revenir à ce qui existait auparavant, pas pourquoi on n'avait pas voté la même chose d'ailleurs, c'est une délégation d'attribution sur la totalité des marchés, sachant bien entendu que au-dessus de 250 000 euros et au-dessus de 5 millions d'euros, il y a des commissions d'appel d'offres, hein, ce n'est pas le sujet. Mais ça me permet d'attribuer le marché immédiatement après la commission d'appel d'offres et de ne pas attendre le conseil communautaire suivant qui peut se situer à un mois, deux mois, quelquefois trois mois et donc qui perturbe le fonctionnement après des travaux, quand ce sont des travaux qui retardent les dossiers, quoi. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, il y a systématiquement, en début de séance, comme nous l'avons là cette fois-ci, comme nous l'avons chaque fois, un détail de toutes les décisions qui ont été prises, des plus petites aux plus importantes. Voilà. Donc en fait, c'est exactement la même délégation d'attribution qui existait auparavant et on avait été plus restrictif et ça pénalise un peu la collectivité. Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Une délibération sur un syndicat intercommunal du Moyen Adour landais avec une approbation d'une modification des statuts. Peut-être demander à Thierry Socodia-Béer, puisque c'est le spécialiste des rivières, qui nous présente ça.
Pardon. La communauté d'agglomération s'est substituée de plein droit aux communes qui la composent au sein des structures gestionnaires des rivières, à savoir le syndicat mixte du bassin versant de la Midouze, le syndicat mixte de rivière du bassin adourlandais, Sirbal, et le syndicat intercommunal du moyen adourlandais, Simal, ainsi que le syndicat du Midou et de la Douze. Le syndicat intercommunal du moyen adourlandais, Simal, au sein duquel le Marsan agglomération représente les communes de Binquet, Bretagne de Marsan et Campagne, sollicite la modification de ses statuts. Il s'agit, 1. De modifier le nom du syndicat qui serait dénommé syndicat du moyen adourlandais, suppression de la mention intercommunale, le syndicat étant devenu mixte par la représentation substitution d'établissements publics de coopération intercommunale. 2. De mettre à jour la composition du syndicat et la représentation des membres dans le cadre de la représentation substitution des établissements publics de coopération intercommunale. En l'espèce, le Marsan agglomération et la communauté de communes du pays de Tarusat. Et en 3, de modifier ou supprimer les articles liés au fonctionnement du syndicat, c'est-à-dire convocation, rôle du président, bureau, etc. Tout élément relevant du règlement intérieur de l'établissement.
Merci Thierry. Bon, on ne va pas, à mon avis, être très critique sur tout ça. Donc, y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. À propos des syndicats de rivière, cela existe, mais le syndicat de la Douze et du Midou s'est constitué progressivement et va rentrer en phase d'activité petit à petit avec le recrutement d'un technicien rivière, bien sûr, puisque ça fait partie, puisque je vous rappelle que ces deux cours d'eau n'avaient pas de syndicat qui gérait, d'ailleurs ils n'étaient pas gérés du tout, de syndicat de gestion. La modification des statuts du syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Alors là, il s'agit simplement, il faut que nous actions le retrait de la commune de Mugron, qui ne veut plus faire partie de ce syndicat. Voilà. Je ne vous dirai pas pourquoi, ça ne nous regarde pas. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Bien, maintenant nous allons passer à des délibérations concernant les ressources humaines. Pierre Mallet, détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision de recueil de l'avis des représentants de l'établissement.
Bien, le Marsan agglomération avait créé un comité technique paritaire en date du 27 septembre 2010, suite aux modifications apportées par la loi en juillet 2010 et au décret du 27 décembre 2011. Ce décret modifie la notion de paritarisme. Ce comité technique paritaire doit surtout donner son avis sur le bilan social de l'établissement, les conditions de travail, la durée de travail, les évolutions des administrations et un impact sur le personnel, les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, les régimes indemnitaires, critères de répartition qui y a faire, la formation, l'insertion, la promotion et l'égalité professionnelle, la protection sociale. Il vous est proposé par cette délibération de maintenir le paritarisme et de nommer 3 personnes pour représenter le personnel et 3 personnes pour représenter l'établissement au sein de ce comité technique paritaire qui, par ailleurs, a très bien fonctionné au précédent mandat.
Très bien. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. La création de l'emploi de chargé de mission édition.
Alors, par délibération du 1er février 2010 et du 26 mars 2013, le Conseil communautaire a créé un emploi de chargé de mission édition pour le service communication. C'est un renouvellement. On est proposé au Conseil communautaire d'autoriser la création d'un emploi de chargé de mission édition pour une période de 12 mois. Donc cet emploi serait au grade de rédacteur territorial, poste à temps complet, recrutement par voie contractuelle pour 12 mois, la rémunération, etc. L'intéressé bénéficiera bien sûr du régime indemnitaire applicable au cadre d'emploi.
Donc c'est pas un nouvel emploi, c'est un emploi qui existe déjà. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Une transformation d'emploi.
Cela concerne une personne qui travaille au sein de la médiathèque et qui a réussi un concours territorial. Donc il vous est proposé de transformer l'emploi d'adjoint du patrimoine de deuxième classe à temps complet en emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet.
Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La mise en place de l'indemnité de performance et de fonction des ingénieurs en chef, Pierre Mallet.
Cette mise en place vous est proposée pour, je dirais, mettre sur un pied d'égalité tous nos collègues au niveau du Marsa Agglomération. Et concerne, je crois, actuellement, au niveau de l'effectif du Marsa Agglomération, une seule personne. Mais c'est toujours dans la mise en place des nouveaux régimes indemnitaires. Donc vous avez un tableau derrière qui vous explique un peu le fonctionnement, les montants annuels de référence, en fonction de si vous avez un ingénieur de grade de classe normale ou de classe exceptionnelle. Et il serait mis en place dès cette année pour prendre petit à petit la place des régimes indemnitaires actuels.
Oui, ça existe pour les administratifs, donc oui, pas voté, pour les...
On l'avait voté
je ne sais plus, en 2012 ouais, ou 2013.
En 2013, je crois.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Une convention proposée par le centre de gestion.
Oui, cette convention d'adhésion à une offre de service qui est proposée par le centre de gestion. C'est la convention pour le comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est une convention qui nous lierait avec le centre de gestion et qui, les interventions seraient assurées à titre gratuit. Donc il vous est proposé de signer cette convention.
Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La délibération concernant l'adhésion au service réseau de tuteurs d'emplois d'avenir.
Oui, nous avons sur le Massin Agglomération des emplois d'avenir. Et donc, le centre de gestion propose la création d'un réseau de tuteurs d'emplois d'avenir. Je pense que c'est pour accompagner ces tuteurs, hein, ces encadrants, dans leur rôle, accompagnement, formation et insertion des jeunes. Le centre de gestion s'engage à verser 300 euros net par an pour chaque tuteur, sous réserve que ces derniers participent aux réunions de ce réseau. Voilà, la collectivité, bien sûr, doit aussi s'engager à permettre aux tuteurs de participer à ces réunions. C'est en fait pour que le contrat d'avenir soit une réussite au terme de celui-ci.
Pas d'avis contre, j'imagine, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Bon, nous en avons fini avec les délibérations de ce conseil communautaire. Je souhaitais soumettre à votre avis une motion de soutien à l'action de l'Association des maires de France, l'Association des maires de France a demandé à toutes les collectivités qui le souhaitaient, bien sûr, de voter cette motion, sachant que plus de 10 000 collectivités, communes et intercommunalités l'ont voté déjà, d'ores et déjà à l'heure actuelle. Motion qui dit très simplement que les collectivités sont en premier lieu, les communes et les intercommunalités risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017. Soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'Association des maires de France a souhaité à l'unanimité mener une action forte et collective
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et leurs entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent les leviers d'action. En raison de la rigidité d'une partie de nos dépenses, de transferts continus de charges de l'État, de l'inflation des normes et du niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale. Donc voilà, nous rappelons que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont par la diversité de leurs interventions au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien-vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur le territoire. Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. En outre, nous estimons que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont souvent, très souvent superficielles et injustes. C'est pour toutes ces raisons que le Marsan Agglomération soutient les demandes de l'AMF, réexamen du plan de réduction des dotations de l'État, arrêt immédiat des transferts de charges nouvelles et des mesures normatives source d'inflation de la dépense et réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. Bon, ça reprend le texte de la motion de soutien de l'AMF. Y a-t-il des interventions ? Je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Nous transmettrons cette motion. Enfin, nous aviserons l'AMF que nous avons voté cette motion à l'unanimité. Alors, je voudrais pas... j'entends beaucoup de papiers qui bruissent. Vous ne croyez pas que vous allez vous en tirer si bien, quand même. Voilà. Deux informations. La première information concerne l'évolution de l'Office public de l'habitat des Landes. J'ai reçu à sa demande son président, M. Xavier Fortinon, et sa directrice, Mme Marilyn Perron, qui sont venus m'exposer le projet de l'Office public de l'habitat, qui a été validé entièrement par le Conseil général des Landes, d'effectuer une fusion entre l'Office public de l'habitat, l'Office public de l'habitat de Dax et Habitat Landes Océane, qui étaient des opérateurs de création et de gestion de logements sociaux. Ce rassemblement de cette fusion, en effet, ce regroupement de ces trois organismes va donner naissance à un organisme qui va être doté d'une taille critique suffisante pour faire face à la concurrence et puis pour mutualiser, rationaliser les moyens. Tout le monde cherche aussi à être plus efficace. J'ai immédiatement dit au président que je, non seulement j'y voyais pas d'inconvénient, mais je pensais que c'était effectivement une excellente solution pour avoir justement un opérateur important sur le territoire des Landes, parce que nous avons besoin, nos collectivités, nous avons du logement social à construire et nous avons besoin de bien sûr d'eux. Et que ce soit un organisme fort. Bon, savoir quand même que c'est une opération de regroupement de ces organismes qui est assez complexe sur le plan juridique à mener. que les choses ont démarré par divers avis à Dax, notamment le 5 septembre, pour l'OPH des Landes, le 8 septembre. Enfin, je ne vais pas vous donner tout le calendrier, parce qu'il faut fusionner, il faut absorber. Enfin bon, c'est assez... Je ne vais pas aller sur le principe, parce que ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que les choses se fassent. Par contre, il y a une assemblée générale extraordinaire importante pour cette fusion le 24 octobre, le 17 octobre, pardon. Non, le 24 octobre. Enfin, moi, c'est marqué 24, là. Parce que le 17, c'est la délibération du Conseil général. C'est le 24 octobre, je pense. Enfin, je vérifierai la date, peu importe, dans tous les cas. Où nous devons aller, puisque nous avons un représentant, hein, c'est Jean-Paul Le Tyran. Et il faut absolument que Jean-Paul Le Tyran soit présent, parce que c'est 2/3 des voix. Enfin bon, il y a tout un processus. Donc je les ai assurés, enfin je leur ai dit qu'il y aurait bien un représentant de notre collectivité qui serait présent et qui voterait en faveur, si vous m'en donnez aussi mandat ce soir. Parce que j'ai dit moi ce que j'en pensais, mais vous avez peut-être des avis divergents, auquel cas je suis prête à les entendre. Bon, j'imagine que non, il n'y a pas de... Ah, sera un opérateur. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, l'office public des Landes gère 7000 logements sociaux et les deux autres 3000 donc, ou 4000. Enfin, il y aura 11 000, je crois, logements. Enfin, ça en fera un opérateur d'une taille intéressante par rapport aux autres opérateurs dans les autres départements, aux autres opérateurs. Donc je me suis. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Donc il n'y a pas. Hein, on reste, on y va et on est tous favorables, vous êtes d'accord, tous favorables à cette opération, donc pas de souci. Et deuxième information que je souhaitais vous donner, parce que vous avez dû le lire dans la presse, nous avons. Parce que bon. Nous avons été informés en même temps, mais il n'y a pas eu de conseil communautaire depuis, donc je ne pouvais pas vous en parler à tous. J'en ai parlé en bureau des maires, mais je n'en ai pas parlé en conseil communautaire. C'est donc l'annonce qui a été faite par la société Catinvest et Carrefour de la volonté de Carrefour déménager au niveau de la zone commerciale de Malage. Bon, je rappellerai pour tous ceux qui, en fait... sont un petit peu récents dans la collectivité, n'ont pas suivi ce dossier, que l'idée première de ce dossier était de faire une véritable un regroupement, enfin majoritairement un regroupement des commerces qui sont le long de cette voie, des commerces qui le souhaitent, hein, qui sont le long de cette voie, l'avenue Maréchal-Juin, voie qu'il faut requalifier, et ce ne sera pas qu'une requalification, à mon sens, de voirie qu'il faut réaliser, c'est aussi une requalification fonctionnelle de la voie qui actuellement est une multitude de boîtes à chaussures pour certains, de commerces installés dans de mauvaises conditions avec tous des sorties sur cette avenue Maréchal-Juin. Il y a 100 sorties sur cette avenue Maréchal-Juin et 100 entrées qui rendent aussi d'ailleurs les conditions de circulation un peu hasardeuses, quelquefois un peu compliquées en termes de sécurité. Et puis bon, ça manque de visibilité pour tous ces commerces parce qu'ils sont éparpillés en définitive. Il y a beaucoup d'emplois dans tous ces commerces. Il faut quand même le savoir également. Qu'il faut aussi, qui par cette opération, pourront être complètement confortés, voire même amplifiés, puisque c'est une opération qui amènera de nouvelles créations d'emplois. Donc nous avions fait un cahier des... Nous avions fait un appel à projet et nous avions fait un vrai cahier des charges qui disait un petit peu ce que je viens de vous dire sur la philosophie et qui donnait des principes auxquels nous sommes attachés et sur lesquels nous ne dérogerons pas dans la typologie des commerces qui seront dans cette zone d'activité à Malage. C'est-à-dire pas de commerce de centre-ville, en dehors de la galerie marchande existante à Carrefour actuel, pas d'augmentation de surface de la galerie marchande, donc
Pas de nouvelles, pas de, de surface commerciale de moins de 300 mètres carrés, et l'investisseur s'est engagé à ce que ce soit pas de surface commerciale nouvelle inférieure à 400 mètres carrés, si je me souviens bien. C'est ça ? Oui. Donc voilà, il y a des garanties qui ont été énoncées et qui sont à l'heure actuelle totalement respectées par la société Catinvest, qui a donc pu, après, j'imagine, de longs mois de négociations, je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux, parce que ça c'est leurs affaires, c'est pas les nôtres, c'est une affaire privée quand même. Je crois qu'il y avait une volonté de Carrefour d'avoir une assise supplémentaire, enfin une assise différente que celle qu'ils ont maintenant. Ils se sont mis d'accord sur les modalités, si j'ai bien compris. Et donc, ils ont officialisé tout cela. Voilà où nous en sommes. Bon, la suite, je vous la dirai au fur et à mesure de ce qui viendra. Hein. Et qu'ils sont sur un travail important auprès des commerces, qui est déjà entamé depuis plusieurs mois, hein, auprès des commerces qui sont présents le long de cet axe. On se posera à nous, bien sûr, le problème après du devenir des fonciers, du poids qu'on pourra avoir sur le devenir des fonciers qui seront libérés. L'idée étant quand même, sur au moins une bonne partie de l'axe, la première partie, de pouvoir peut-être aller plus vers du logement, puisqu'on a besoin d'espace foncier pour pouvoir créer du logement à Mont-de-Marsan, hein, sur un axe qui est bien, très bien desservi par les transports publics. Et ça aussi, c'est un critère qui est important, du logement, du bureau et des activités qui densifient un petit peu cet axe aussi, qui a besoin d'être densifié et qui lui donne, avec une architecture qui sera un petit peu plus structurée. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez je voulais vous le dire officiellement en conseil communautaire, bien que vous l'ayez lu dans la presse avant, mais moi je ne maîtrise pas les annonces des uns et des autres. Je peux maîtriser les miennes, mais... Voilà. Pas de questions, pas de... Très bien. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en complément des informations. Et dernière chose, on peut en parler longuement, et puis en plus, Jean-Marie Esquier n'est pas là. Je crois que, dans les communes, tout le monde le sait, hein, les informations seront faites de toute façon dans chaque commune au fur et à mesure. Le dossier de la prise de compétences scolaire, périscolaire, centre de loisirs, bat son plein, si j'ose dire. Occupe beaucoup les élus, alors les maires d'une part, et puis va beaucoup occuper aussi les élus de chaque commune qui sont en charge des affaires scolaires, puisqu'ils sont réunis dans un comité technique, on va dire, pour décider de toutes les modalités de gouvernance, de toutes les modalités pratiques de mise en œuvre de ce dossier, sachant que nous avons encore un important travail à finaliser, qui n'est pas encore fait, hein, sur toute la partie des transferts et de toutes les implications budgétaires et au niveau des communes et au niveau de l'agglomération qu'un tel transfert engendrera. Mais sachant quand même que tous les élus unanimement ont décidé, puis vous le savez, vous étiez à la réunion, hein, qu'au mois de juillet, de transférer ces trois secteurs, hein, c'est-à-dire le scolaire, le périscolaire et le centre de loisirs, l'intégralité et la restauration scolaire aussi, donc l'intégralité de cette compétence dans l'enfance, ce qui est quelque chose de très lourd. Mais les objectifs que nous souhaitons collectivement atteindre, qui sont d'avoir une approche un petit peu unifiée sur l'agglomération quant aux moyens mis en œuvre dans les écoles, il y a les temps d'activité périscolaire aussi qui posaient de grosses difficultés à certaines communes, que nous mettions tout cela en moyen, en commun, arrivera, je crois, à, à nous tirer tous vers le haut, que ce soit les petites communes et les communes plus grandes, dans un objectif important pour la, la jeunesse et l'enfance sur ce territoire. Donc c'est quand même les objectifs que tous élus on a souhaité. Donc voilà ce que je voulais vous... Bon, je ne peux pas en parler davantage pour l'instant, puisque le dossier n'est pas assez avancé et que nous aurons... sera proposé un vote dans les prochains mois, peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de décembre, peut-être voilà, en fonction de l'avancée du travail qui pourra être effectué. Et que si, j'ai une autre chose à dire, qu'en plus des informations qui seront faites dans chaque commune, je souhaite et nous allons faire une réunion globale de tous les élus communautaires et communaux, qui ne sont pas communautaires, de toutes les communes de l'agglomération, ensemble, pour pouvoir justement présenter les enjeux, présenter le projet, présenter les incidences globalement, et afin que tout le monde ait le même niveau d'information en même temps. Voilà. Et je crois que ce sera une bonne chose, et puis ça permet aussi... voilà, moi je pense que ça permet aussi aux communes de se parler, aux élus communaux, voilà, d'échanger et, entre eux aussi, et c'est une, ce sera une très bonne chose. Je n'ai pas encore la date. Elle a été, oui, enfin c'est Jean-Marie Esquier qui fixera tout ça et qui nous tiendra informés. Donc c'est un gros beau dossier intéressant. Et pour terminer de chez Terminer... Je voulais simplement vous dire que, parce que je le vois là, que la saison culturelle commence vendredi. Mais Antoine, je vous vois, vous avez l'air de vous ennuyer. Donc je vais dire, je vais parler d'Antoine.
Non, il est concentré.
Non, vous êtes concentré. Que la saison culturelle, alors je parle de la saison culturelle, hein, que ce soit ville et agglomération. Oui, Antoine Gariel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, notre directeur des politiques culturelles, que ce soit ville ou agglomération, on parle de la saison culturelle, hein, puisqu'elles sont mêlées, démarre vendredi soir au pôle culturel. Voilà. Moi, je vous invite à y participer. Et il y a, notre saison culturelle a beaucoup de succès avec une très forte hausse des abonnements. Voilà. Est-ce que... Moi, j'ai fini avec mes communications. Il n'y a pas de questions particulières. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous remercie. Et nous serons contraints de déplacer la date prévue pour le mois de novembre, qui était le 25 novembre, parce qu'il y a le congrès des maires. Et il y aura beaucoup de maires de notre collectivité qui iront au congrès des maires. Donc nous l'avancerons très vraisemblablement à la semaine avant. On vous le dit très rapidement.